Aujourd'hui, parce qu'on se sent le cœur solide, on va explorer ensemble l'agenda de Justin Trudeau. Et oui, on plonge. Aussi bien les déclarations, ses itinéraires, les comptes rendus qu'il a faits, les rencontres qu'il cumule, c'est évidemment quelque chose que vous avez vu passer rapidement dans les médias, mais je suis pas sûr que vous avez eu une lecture un peu plus précise de ce qui s'est passé. Commençons dès maintenant avec une date importante, soit le 14 novembre 2022, où les Canadiens ont appris, avec stupeur, qu'il y avait 500 millions de dollars de plus que Justin Trudeau venait d'annoncer alors qu'il se trouvait à Bali, en Indonésie, à destination de l'Ukraine. Et oui, afin d'aider les forces armées ukrainiennes, dit-il, à défendre leur pays. Donc, il ne parle pas de Volodymyr Zelensky, qui jusqu'à présent n'a pas vraiment montré de bilan convaincant hein, pour l'argent qu'on a envoyé jusqu'à présent. C'est parti, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, ni si vraiment ça sert, ni s'il y a les effets escomptés. C'est juste l'argent qui a été exporté. Et là, il y a un 500 millions de dollars de plus qui est envoyé. J'espère que tout le monde comprend que ce 500 millions de dollars-là, il aurait pu être utilisé également au Canada parce qu'on en a bien besoin alors que l'inflation fait des ravages sur des millions et des millions de Canadiens dans les classes les plus pauvres qui peinent à boucler leur budget, à payer leur loyer, à manger. À chaque jour, c'est rendu difficile pour eux se transporter, s'habiller. Tous les besoins sont devenus difficiles. Pendant ce temps-là, il y a Justin Trudeau qui est à Bali, en Indonésie, en train d'exporter des centaines de millions de nos dollars. Évidemment, on comprendra que les grands médias n'insistent pas sur la chose, préférant se concentrer sur le faste de Justin Trudeau, qui mange à sa faim, lui, de son côté. Il n'y a pas de problème là. L'autre date que les gens se rappellent, parce qu'on pourrait parler de ce petit segment-là que je viens de dire pendant longtemps, tellement Justin Trudeau, dans son annonce, à chaque paragraphe, ce serait l'objet d'un discours, tellement c'est, c'est chargé de wokitude. Si on regarde plus près de nous un petit peu, le 16 novembre, il était toujours Justin Trudeau avec Mélanie Joly à Bali, en Indonésie. Mais cette fois-là, c'était pour annoncer 750 millions de dollars pour FinDev Canada. Je ne crois pas que vous avez entendu parler de FinDev Canada. C'est c'est quelque chose qui appartient à Exportation et Développement économique Canada. C'est sûr et certain que vous allez tomber sur le derrière en regardant c'est quoi FinDev Canada, tellement leur travail et de faire avancer le développement durable de l'ONU à travers les objectifs 5 d'égalité entre les sexes, 7 d'énergie propre, et évidemment, eux autres appellent ça aide un coût abordable. J'aimerais beaucoup savoir c'est quoi un coût abordable pour de l'énergie propre, sachant que l'énergie propre coûte généralement plus cher. Ensuite de ça, il parle de l'objectif 8 du développement durable de l'ONU, le travail décent et la croissance économique. On parle toujours de FinDev Canada, qui est sous EDC, Exportation et Développement économique. On parle du point 9, qui est l'industrie, innovation et infrastructure. C'est tellement vague. Ils peuvent faire rentrer tout ce qu'ils veulent, l'ONU, là-dedans. Et le fameux point 13, les fameuses mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Évidemment, je me demande si quelqu'un au GIEC pourrait nous pointer une seule période de l'histoire de l'humanité et de la Terre où il n'y a pas eu de changement climatique. Mais le point 13 du développement durable de l'ONU, c'est des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. C'est comme se battre contre le vent. Il y aura toujours des changements climatiques. Soit ça va monter, soit ça va descendre, mais il y aura toujours des petites variations. Même depuis qu'on est né, la plupart qui m'écoutez, vous avez quelques décennies de vie ou plusieurs derrière la cravate. Et vous savez pertinemment bien que même si les saisons se suivent et se ressemblent, il y a toujours des petites variations. Il y a toujours des changements climatiques. Eux autres ont simplement militarisé le terme à l'extrême. Et ça permet d'avoir des investissements absolument déboussolant, parce que c'est des chiffres énormes, qui se succèdent comme une parade d'exportation de nos milliards vers l'étranger. On ne sait pas trop ce qui en advient, on ne sait pas trop qui le reçoit, on ne sait pas trop qui est à l'autre bout pour profiter de ces immenses largesses-là prises à même notre trésor public et notre endettement national au Canada. Mais on sait très bien que les provinces aussi participent à ça et plusieurs villes qui sont beaucoup du côté du développement durable de l'ONU, elles aussi participent à tout ça sous le principe du fameux développement durable toujours, qui est un gros parapluie. On comprend que nous, on ne fait pas partie de la discussion. C'est vraiment un petit groupe qui a décidé de prendre le contrôle complet de nos finances publiques et de l'exporter vers des projets ou des partenaires du développement durable, souvent des entreprises ou des OSBL qui gravitent autour de l'ONU, sont là pour aider, le mot « aide » est entre guillemets, les acteurs locaux dans n'importe quel pays d'Afrique, d'Asie ou qu'importe, en Amérique du Sud, où est-ce que cet argent-là est exporté, et vont faire en sorte d'aider les gens sur place avec divers projets en disant du côté de FinDev qu'ils aident finalement au développement international. Mais c'est toujours avec notre argent et on ne sait pas trop ce qui en advient et s'il y a profit, est-ce qu'il est réutilisé? Est-ce que vraiment ça nous amène quoi que ce soit? On voit qu'il y a des travaux pour finalement, par exemple, si on regarde en Indonésie, parce que ce n'est pas par hasard que c'est à Bali que le G20 s'est tenu, parce qu'ils ont, imaginez-vous donc, le 15 novembre 2022, les pays comme le Canada, les États-Unis, le Danemark, l'Union européenne, les gros, l'Allemagne, la France, la Norvège, l'Italie, le Royaume-Uni, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, ils ont fait une déclaration commune. Puis la déclaration là est vraiment longue. Puis ça commence avec des reconnaissants. Puis écoutez, je vais juste vous lire le premier point. Vous allez voir à quel point ça commence avec vraiment des licornes et des arcs-en-ciel. Là. Ça dit « Reconnaissant la nécessité d'accélérer les efforts en vue de la réalisation du programme 2030. » Ben oui, le programme où aucun humain n'a jamais voté. Ceux qui ont voté, c'est les surhumains, c'est la classe dirigeante. Ceux qui ont accès au pouvoir, qu'ils l'achètent, qu'ils l'obtiennent, enfin bref, sont là. C'est eux autres qui vont prendre le devant pour le programme 2030. Donc déjà là, on voit que c'est assis sur un programme qui n'est absolument pas ni canadien, ni américain. C'est un programme onusien, y compris l'objectif de développement durable 7. Parce que le programme 2030, vous avez compris que c'est l'agenda 2030, évidemment. Et des objectifs de l'accord de Paris. Ah, ça revient cet accord-là, comme si on ne pouvait pas passer à autre chose. Ainsi que la mise en œuvre du pacte de Glasgow pour le climat. Eh oui, enfin, le pacte de Glasgow, comme si on avait besoin de tout ça en plus de l'accord de Paris. Afin d'éviter, puis écoutez bien le langage, afin d'éviter les pires effets des changements climatiques. Ça ne vous rappelle pas ça? Quelque chose qui avait été pris pour éviter les pires effets de la maladie. C'est le même genre de verbiage. C'est identique. Ils ont fait un copier-coller. Ils ont dit, on tient notre poule aux œufs d'or. Les gens, ils vont voir que du feu. Ils comprendront même pas que quand on dit afin d'éviter les pires effets des changements climatiques, c'est parce que c'est une cible en mouvement, ça, là. C'est quoi les pires effets des changements climatiques, sachant qu'ils sont continuellement en train de raffiner le narratif derrière ça? Mais ça peut être littéralement n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. Donc, toute cette déclaration commune-là est assise sur du vent, littéralement du vent. Donc, ça dit, je vais vous relire la phrase que vous la compreniez bien, « afin d'éviter les pires effets des changements climatiques sur nos pays ». Il n'a pas dit sur tous les pays, sur nos pays, donc ceux qui font la déclaration commune, sur nos populations et sur l'environnement. Ah là, ce n'est pas nos environnements, c'est l'environnement en tant que tel. Donc, c'est un texte qui a été fait pour finalement toujours profiter aux contrôleurs. Qu'importe la manière dont on lit cette phrase-là, c'est fait pour que le peuple ait toujours tort et que la personne qui a dit les choses peut toujours se défendre facilement. Parce que si quelqu'un un jour, mettons en 2030, fait la remarque, vous savez, les changements climatiques, là, l'hiver arrive toujours à la même date, il y a toujours autant de neige, il fait tout le temps à peu près froid de la même manière, puis l'été, c'est pas mal tout le temps pareil aussi. Oui, il y a eu des inondations, il y en a eu pas mal de tout temps. Mais à part de ça, c'est pas mal pareil. Ben, eux autres vont pouvoir dire « Ah, mais là, cher public qui venez de dire ça, vous avez tort de prendre ça autant à la légère, puisque nos canalisations de milliards et même de dizaines de milliards, éventuellement à terme dans ce qu'ils sont en train de faire, ça va avoir évité les pires effets des changements climatiques. » Voyez-vous comment c'est tordu et machiavélique? C'est tellement efficace, on a le goût de leur donner une tape dans le dos et dire « Bravo ». Bravo, bravo, t'as trouvé les bons mots pour être capable de tromper le peuple. Le peuple verra jamais à quel point tout ça, c'est de l'arnaque. Il va penser qu'effectivement, on évite, puis très textuellement, les pires effets des changements climatiques, alors que franchement, c'est parce que c'est simplement une voie d'évitement pour avoir à rendre des comptes. Puis oubliez pas qu'ils évitent les pires effets des changements climatiques, mais c'est sur nos pays et sur nos populations. C'est pas vraiment pour aider les pays qui ne sont pas dans la déclaration commune. C'est vraiment pour aider nos pays. Donc, ce type de verbiage-là, juste en le mentionnant, juste en parlant, je sens que vous êtes en train de devenir très familier avec ça et que vous comprenez de mieux en mieux pourquoi il faut être habile et voir clair. Parce que ces genres d'agendas-là ne peuvent exister que si les gens sont distraits, s'ils sont occupés, s'ils sont perdus dans le langage et que personne ne prend le temps de vraiment là, aller lire, puis voir à quel point tout ça s'est bâti pour être capable de canaliser de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui disent que le gouvernement, c'est la plus grosse machine de blanchiment d'argent au monde. Parce qu'actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent au peuple via le jeu des impositions et des taxes et des frais, parce qu'il n'y a pas de limite à la quantité de frais et de taxes et d'impôts qu'ils viennent chercher. Et par l'endettement sur notre tête, sur la tête de notre personne fictive, de notre homme de paille, tout ça, ils le prennent, mais pourquoi? Ils le canalisent dans toutes sortes de projets, comme la déclaration commune que je suis en train de vous lire. Et puis, cet argent-là, une fois qu'il est rendu là-dedans, quand est-ce qu'on a des comptes rendus de tout ça? Jamais. Jamais. On ne sait pas ce qui arrive avec cet argent-là. Est parti. Là, on a quoi? 750 millions de dollars qui va pour FinDev Canada? Ben moi, j'ai le goût de demander en quoi? 2014-2015? Il me semble que c'est 2015. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Là. C'était, en tout cas, en 2015-2016, dans ces années-là, ils ont reçu quoi? 300 millions? Pour se lancer, mais il est arrivé quoi avec ce 300 millions-là? Il y a des rapports, mais c'est des rapports genre « nous avons aidé les pays en voie de développement ». Mais encore, y a-t-il des détails? Quelles usines? Quelles adresses? Qu'est-ce qui nous appartient là-dedans? Qu'est-ce qui nous appartient plus? Quels sont les partenaires à qui tout cet argent-là a été canalisé? C'était qui les fournisseurs? C'était qui les sous-traitants? Est-ce qu'ils sont encore en affaires? Ça a-tu vraiment aidé le pays à l'autre bout? Il y a littéralement rien de tout ça qui est répondu. Rien. C'est tout du vent, c'est tout dans les airs. Alors, c'est encore le même manège qui se fait. Pensez pas que Justin Trudeau s'en va à Bali pour rencontrer des gens qui sont dans le même genre de mouvance. Moi, je l'appelle le Parti démocrate mondial, qui est en réalité l'extension de l'ONU, l'extension du Forum économique mondial. C'est une seule et même machine, un seul et même système. Et puis là, il s'en va à Bali pour dire quoi? Il a parlé avec Rishi Sunak, le nouveau PM anglais. Il a parlé avec, également, vous ne le connaissez pas, mais il s'appelle Gabriel Boric du Chili. Il a parlé avec Biden, il a parlé avec Harris, il a parlé avec des gens qui sont dans la même mouvance que ceux qui gravitent autour de l'OMS, puis de l'ONU, puis du GIEC. C'est toujours la même affaire d'agenda inclusif, de lutte au carbone, d'aide à l'étranger, mais surtout aux femmes, parce que vous savez que tous les programmes sont des programmes féministes. Tous les programmes d'aide étrangère du Canada, c'est tout pour les femmes. Alors ça, évidemment, c'est très clair, c'est parce qu'ils veulent doubler la quantité d'imposition possible pour les gouvernements. C'est un peu la manière dont ils sont capables de convaincre plusieurs pays, ce qu'ils appellent en voie de développement, donc en voie de double taxation, taxation des hommes, taxation des femmes, pour augmenter la base de taxation et donc augmenter la quantité finalement d'endettement qui peut être possible sur la tête des gens du pays pour que les gens qui le dirigent puissent avoir des moyens sans cesse supplémentaires et de plus en plus énormes pour faire marcher un peu la bulle qu'on a sous les yeux puis qu'on peut regarder dès qu'on se met à être le moindrement attentif. Donc, je reviens un petit peu à FinDev Canada, qui est une organisation qui dit que parmi leurs prêts, ils visent à mobiliser du capital privé dans les marchés en développement pour soutenir des initiatives d'affaires qui permettent de promouvoir le renforcement du pouvoir économique des femmes. Quand je vous disais que tout est pour les femmes, même FinDev Canada, même le 750 millions que Justin Trudeau a annoncé le 16 novembre au G20 de Bali en Indonésie, c'est d'abord pour le pouvoir économique des femmes. Et on s'entend, en soi, c'est parfait et c'est merveilleux. On veut que les femmes aient tous les outils pour développer qu'importe les rêves qu'elles pourraient avoir. Mais en même temps, vous ne trouvez pas ça un petit peu débalancé que si on est censé travailler sur des programmes qui misent sur l'inclusion, qu'on n'inclut pas les hommes? C'est un peu comme un non-sens. Mais personne n'en parle. Donc, sur le terrain, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée des distorsions. Et on ne peut pas faire autrement que de voir que notre argent sert à créer ces distorsions-là de manière active. Donc ensuite, c'est quoi le deuxième objectif derrière ces immenses investissements-là? C'est l'action climatique et le développement des marchés. Intéressant. L'action climatique. Si on travaille sur l'action climatique, qui est une prise strangulatoire sur la nature, question de tuer et de décarboniser, tuer à coup de diminution sans cesse du carbone, quelque part, le développement des marchés, c'est sûr qu'on peut, bien rêver, mais il faut qu'il y ait un bateau à un moment donné, il faut qu'il y ait un train, un camion, il faut qu'il y ait une usine, il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise, il faut qu'il y ait de l'activité économique. À la grosse limite, il y a des humains qui vont respirer ou des techniciens qui vont entretenir des robots qui, eux, vont avoir pris du carbone pour être fabriqués, réparés, entretenus, alimentés en électricité. Donc, on se rend compte que c'est parce que tout ça, là, il y a des non-sens là-dedans. Puis soit tu vas du côté de l'action climatique puis que tu arrêtes tout, soit que tu vas vers le développement des marchés puis que tu ouvres la machine afin de permettre aux autres marchés, ceux qui sont visés par FinDev Canada, qui sont des marchés souvent en émergence, de leur permettre de finalement développer. Mais là, on leur met ça extrêmement limitatif en cadrant l'action climatique dans la même phrase que le développement des marchés. C'est comme dire « cours, mais va pas vite ». Mais « cours, mais marche ». C'est totalement incroyable comment ces gens-là se contorsionnent pour trouver des mots qui vont satisfaire la personne qui l'évite, mais qui vont ensuite permettre à la personne qui, elle, va mettre en place ces projets-là, de faire pas mal tout ce qu'elle veut. Parce qu'elle va pouvoir dire « Ah, ben là, on a beaucoup misé sur l'action climatique pour tel autre projet. Dans celui-ci, on va aller sur le développement des marchés afin de finalement alimenter la fameuse pieuvre d'entreprises dans la grande nébuleuse de l'ONU, les fameux fournisseurs sur le terrain, les entreprises qui appartiennent en secret à George Soros, qui appartiennent en secret à Bill and Melinda Gates ou à Bill Gates directement, des entreprises finalement qui font partie d'un immense, immense oligopole mondialiste de services autour de ce qu'on appelle le philanthropo-caritatif suisse à travers le monde. Puis le Canada, bien évidemment, avec FinDev, vous avez compris qu'il y a des alliances avec des compagnies de développement finnoises, européennes, allemandes. Donc, évidemment, tous ces gens-là travaillent exactement dans la même direction. Si on regarde les partenaires très rapidement de FinDev Canada, il y a la Banque africaine de développement. Donc, on comprend qu'eux autres vont être les grands bénéficiaires de ça. La compagnie d'investissement belge, il y a British International Investment, Finance in Common, que je ne sais pas exactement c'est quoi, il y a Cofides, pour ceux qui connaissent ça, il y a IDB, Inter-American Development Bank, puis évidemment, ça vous l'avez vu venir, il y a l'ONU, ça s'appelle ONU Femmes. Et ça fait en sorte de fédérer toutes les sources d'investissement dans le monde et de toujours dire « Mais là, t'es-tu pour les femmes? » Puis les femmes, eux autres, bien évidemment, ça devient l'argument, mais ça permet d'aller chercher encore plus d'argent au gouvernement comme le Canada pour dire « Bien là, les femmes, ils n'ont pas assez, il faut les aider plus. » Alors, c'est une bonne chose qu'on les aide plus, objectivement, comme j'ai dit, on veut qu'elles aient absolument tous les moyens dont elles ont besoin, mais en même temps, on voit qu'en réalité, dans le cas du Canada en tout cas, c'est que toute l'aide au complet va aux femmes. Toute l'aide doit être féministe. Alors, ça fait en sorte que ça devient très limitatif. Ça veut dire qu'on peut seulement aider la moitié des gens, ce qui n'est pas correct parce qu'on devrait pouvoir aider tout le monde qui en a besoin à la base, ne serait-ce qu'en principe. Donc, certains diront qu'en aidant les femmes, on aide tout le monde. Et il y a une logique à ça aussi, bien entendu. Mais par contre, le fait que notre aide soit féministe sous le gouvernement Trudeau, c'est un problème à mon sens. D'autres personnes y trouveront une signature progressiste, à la limite woke, et vont beaucoup aimer ça. Dans mon cas, je pense que l'humain doit être reconnu justement dans sa diversité organique et naturelle. Pas une diversité décidée dans une salle de conférence quelque part avec une firme de consultants. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'on devrait donner des coups de barre solides au niveau de la manière dont l'aide étrangère est faite au Canada. D'abord, la diminuer parce qu'on en voit énormément trop à la lumière du fait qu'au Canada, on a de l'inflation qui explose de mois en mois et on le voit. Tout coûte cher et les gens n'arrivent plus. Il y a une classe de privilégiés qu'eux autres peuvent arriver et on fait tout pour que ces gens-là puissent continuer à arriver parce qu'ils sont capables de soutenir une partie de l'économie canadienne. Mais par contre, ceux qui souffrent, eux autres, c'est très pénible pour eux autres en ce moment, puis ça va devenir de plus en plus pénible, probablement pas dans les mois, mais les années à venir. Ça va être long, ça va être difficile et il va falloir se serrer les coudes. On ne le dira jamais assez. Donc, pour faire un petit survol des voyages dans les derniers jours, parce que tout le monde a trouvé que Justin Trudeau bougeait énormément, juste rappeler que les 17 et 18 novembre, on le voyait au Forum de coopération économique Asie-Pacifique, le fameux APEC. Évidemment, pendant qu'il était là, il a été reçu avec les honneurs. C'est là qu'il a pu parler justement en tête à tête avec Joe Biden. Et ils veulent, aussi bien Trudeau que Biden, travailler ensemble davantage pour développer le Pacifique, mais on comprend qu'ils font un bloc commun, États-Unis, Canada. Puis si j'étais les autres pays du Pacifique, je trouverais ça probablement agaçant de voir que le Canada et les États-Unis travaillent autant ensemble, alors que le but même du forum, ce serait de faire en sorte de travailler tout le monde ensemble. Bien entendu, il y a eu des discours où il disait qu'il allait travailler avec les autres, mais on comprenait que la relation Trudeau-Biden était quasiment malaisante tellement elle était proche. Ensuite de ça, le 19 novembre, ça c'est ce qui est plus proche de nous un petit peu, il y a eu le sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Donc, à 6h30, Justin Trudeau est arrivé, débarqué de l'avion, séance de photos, et ça n'a pas arrêté. Des rencontres avec plein de monde, mais il y en a une que je trouvais particulièrement intéressante à reprendre. Je vais juste fermer quelques fenêtres ici pour être capable d'y voir plus clair, parce que vous le savez, je lis un petit peu en même temps que je vous parle. Juste ici, c'est-tu lui? Je veux trouver la bonne page, parce qu'elle est vraiment intéressante, là. Ah oui, c'est ici. Alors, imaginez-vous donc que le 20 novembre, le premier ministre Trudeau a rencontré le président du Niger, qui s'appelle Mohamed Bazoum. C'était en marge du 18e sommet de la francophonie, justement, celui de Djerba en Tunisie. Mais ce qui m'avait frappé en lisant ce communiqué-là, c'était que les deux dirigeants ont échangé sur la situation mondiale et des problèmes croissants de sécurité alimentaire et énergétique. C'est bien beau tout ça, mais à quelque part, qu'est-ce que le Canada fait à s'intéresser au Niger à ce point-là? Eh bien, c'était parce qu'il y avait des problèmes encore au Sahel, mais ça, il y en aura toujours des problèmes au Sahel. Tant que c'est des compagnies étrangères qui viennent faire une solution temporaire puis qui repartent après, ben le pays comme tel va avoir beaucoup de difficultés à se structurer et de monter finalement une base citoyenne forte. C'est toujours l'espèce de... Ils sont dans une forme de prison commerciale. Premièrement, le Niger en particulier sont enclavés. C'est à côté du Tchad, à côté de la Libye, en bas, un petit peu à l'est, si on veut, du Maroc. Et puis, le premier ministre Trudeau soulignait l'engagement du Canada à travailler en étroite collaboration avec les pays d'Afrique pour faire face aux défis mondiaux découlant de l'invasion illégale de l'Ukraine. Puis, juste en lisant cette phrase-là, là, c'est comme, mais tu parles de quoi, Justin? Est-ce que tu parles du fait que les grains ne peuvent pas se rendre en Afrique pour nourrir les populations là-bas? Si c'est le cas, ben, si Justin Trudeau était vraiment sérieux là-dedans, il s'organiserait pour financer la paix et non pas pour financer la guerre en Ukraine. Jusqu'à présent, le Canada, un peu à l'instar de ce qui se passe avec l'OTAN, finance la guerre. On ne peut pas dire autrement. Il y a encore un 500 millions le 14 novembre qui a été annoncé pour envoyer pour de l'aide militaire supplémentaire. Donc, on ne peut pas dire que le Canada finance la paix, là. Puis, il s'en va dire ensuite au président du Niger qu'il va travailler en collaboration avec les pays d'Afrique. Mais c'est parce que l'action en Ukraine de financer avec des armes fait rien pour rétablir le climat où les grains vont pouvoir être exportés vers l'Afrique pour nourrir ces gens-là dans le Sahel. Donc, il y a beaucoup de contradictions. Je vous dirais que lire des communiqués de Justin Trudeau, c'est comme décider foncièrement de plonger dans quelque chose qui... C'est comme plonger dans une piscine de jello et dire nage. C'est comme ça accroche de partout, là. Donc... Là, il parle que notamment en fournissant de l'aide, Justin Trudeau veut fournir de l'aide pour lutter contre l'insécurité alimentaire, tenez-vous bien là, à l'échelle mondiale et régionale. Mais attention là, le Canada qui vient d'imposer une surtaxe sur les fertilisants qui sont utilisés pour nos propres récoltes à nous. Donc, finalement, on vient de se tirer dans le pied, dans l'Ouest canadien. On n'est même plus capable de produire comme avant ou alors à des coûts extrêmement élevés. Et puis, on serait supposé lutter contre l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. C'est énorme, l'échelle mondiale. Il ne faut pas oublier que le Canada, c'est 38,5 millions de personnes. Mais l'échelle mondiale, c'est quoi? 7 milliards? Alors, quand Justin Trudeau dit des choses comme ça, est-ce qu'il s'écoute? Est-ce qu'il est capable de réaliser que ce qu'il vient de dire est une énormité? Parce qu'évidemment, on peut retourner à la phrase et dire « il va notamment en fournissant de l'aide ». Oui, il va fournir de l'aide. J'ai envoyé un stylo BIC, j'ai aidé quelqu'un à écrire à l'autre bout du monde, mais je n'y ai pas envoyé un million de stylo BIC. Donc, en fournissant de l'aide pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais... c'est parce que ça fait quand même des décennies qu'on lutte contre l'insécurité alimentaire. Si on parle du Sahel, du Tchad, on passait avec des petites boîtes d'UNICEF accrochées autour du cou quand il y a comme quoi, 40 ans, 45 ans, pour aider justement aux Africains dans la région du Sahel, parce qu'ils souffraient déjà à cette époque-là. Puis là, aujourd'hui, on entend Justin Trudeau qui sort avec des gros mots et un torse bombé en disant qu'il va fournir de l'aide pour lutter contre l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale, alors que 6 jours plus tôt, il venait d'envoyer 500 millions en aide militaire supplémentaire à l'Ukraine qui va être absolument utilisée pour faire en sorte que le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie puisse continuer de manière militaire. Et donc, qu'on s'éloigne sans cesse d'une solution négociée de paix pour que revienne une forme de normalité dans cette région-là du monde, afin que, justement, il puisse y avoir une vraie lutte extrêmement efficace contre l'insécurité alimentaire, parce que vous remarquerez que dans les dernières années, ça allait plutôt bien pour l'alimentation dans le Sahel comparé à ce qu'on avait déjà vu. Justement, il y a eu une déstabilisation, puis quand on parle de problème, réaction, solution, ben on en a une, justement là, sous les yeux. Ça continue, parce que, vous allez voir, ça devient de plus en plus spectaculaire avec Justin Trudeau et ses communiqués. Ça dit, le premier ministre Trudeau a félicité le président Bazoum pour son leadership dans la région du Sahel. Oui, mais c'est parce que c'est ça, c'est sa région. Comment tu veux qu'il ne soit pas un leader dans la région où il y a tous les défis? Bon, enfin, il aurait pu ne pas l'être, mais enfin, bravo s'il l'est, c'est une bonne chose. Y compris ses efforts pour contribuer à la résolution de la crise politique, sécuritaire et humanitaire. Mais c'est parce que c'est chez eux que ça se passe, fait que c'est sûr qu'il va y avoir une volonté de sa part de tout régler ça. Les deux dirigeants ont exprimé leur appui au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, dans les pays de la région, notamment le Mali et le Burkina Faso. deux pays avec lesquels on pourrait faire de longues parenthèses, ainsi qu'aux efforts de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le fameux CEDEAC, et de l'Union africaine. Donc, un retour à l'ordre constitutionnel, de faire des constitutions. Et ensuite, je vais vous lire la phrase, puis vous me direz ce que vous en pensez. Le premier ministre Trudeau a réitéré l'importance d'assurer la stabilité politique et une gouvernance inclusive à travers la région. Là, je ne sais pas si vous réalisez, mais on parle du président du Niger. Au Niger, il y a des Nigérians et ils sont noirs. Peut-être qu'il parle d'inclure des femmes, ça se peut. Mais à quelque part, il aurait pu dire une gouvernance féministe ou une gouvernance qui donne davantage préséance aux femmes, si c'était ça qu'il voulait dire. Mais non, il a dit une gouvernance inclusive. Mais c'est parce qu'ils sont déjà tous dans ce que le Canada appelle des minorités. C'est parce qu'il y a très peu de gens qui sont pas noirs au Niger. Alors, on peut comprendre que Justin Trudeau voulait probablement inclure peut-être des transgenres au Niger ou peut-être, je sais pas, toute forme de LGBTQ2+, avec la trentaine de lettres qui sortent et les YEL et les LUI qui se trouveraient par un hasard complètement loufoque au Niger. Mais à quelque part, on sent qu'il y a dans cette phrase-là une sorte de déconnexion de « tu parles au président du Niger ». C'est parce que tu n'as pas besoin de parler de gouvernance inclusive alors qu'ils sont tous dans la diversité. Je ne sais pas vers où ils voulaient aller avec ça. J'ai lu le texte. Il revient pas nécessairement spécifiquement sur l'inclusion, là, mais la fameuse inclusivité en disant qu'il veut une gouvernance inclusive, j'imagine que c'est pour inclure des femmes, mais je m'explique pas pourquoi il n'a pas simplement dit une gouvernance qui donne davantage préséance aux femmes. Il a appelé ça une gouvernance inclusive, sachant très bien que c'est un pays où il n'y a que ça, de la diversité au sens de la définition canadienne. Donc, je ne sais pas où y aller avec ça, mais ça m'a vraiment accroché quand je l'ai lu. J'ai dit, ben voyons, c'est pas... Ça me semble que c'est un message qui est soit redondant, soit qu'il n'y a pas sa place. Après ça, les deux dirigeants ont salué la coopération bilatérale grandissante entre les deux pays. OK. Ça, j'ai manqué de me rouler à terre parce que c'est tellement ridicule. Savez-vous, c'est combien les échanges commerciaux entre les deux pays, entre le Canada et le Niger? Eh bien, en 2018, selon les chiffres officiels du gouvernement du Canada, ça a atteint la rutilante somme de 6,7 millions de dollars. Ouais! Ça dit que les exportations de produits canadiens au Niger, notamment de la machinerie, du matériel de transport et des produits textiles, ça a totalisé 4,8 millions de dollars. Puis pour le Canada, on a importé principalement des produits chimiques et du matériel de transport qui a atteint près de 1,9 million de dollars. Et dans son communiqué, les deux dirigeants ont salué la coopération bilatérale grandissante entre les deux pays. Mais c'est certainement pas une coopération économique, en tout cas, parce que c'est clair et net qu'on n'a pas nécessairement ni nous, ni le Niger, à attendre la présence de l'autre pour vivre. Mais par contre, on comprend que cette phrase-là s'adressait également dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de l'assistance immunitaire et de l'aide au développement. Et voilà, c'est là qu'on frappe le centre de la cible. Ça explique le 750 milliards pour FinDev Canada qui a eu lieu, cette annonce-là, 4 jours avant sa rencontre avec le président Mohamed Bazoum du Niger. Alors, on comprend que finalement, Justin Trudeau fait le tour de sa gang. Il fait le tour de ceux qui font partie, finalement, du grand écosystème que nous, on ne voit pas, à moins qu'on cherche, mais qui est totalement là. Donc, après avoir parlé 17 et 18 novembre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, le fameux APEC. Le 19 novembre, Justin Trudeau était au sommet économique, au sommet de la francophonie, pardon, à Djerba, en Tunisie. Et rendu là, il a rencontré également François Legault. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte que finalement, c'était pas mal ridicule parce qu'il aurait pu avoir une rencontre visioconférence à n'importe quel moment. Mais non, il a fallu qu'il attende d'être à Djerba pour rencontrer François Legault. Ça, évidemment, ça reste un des grands mystères de la vie. Comment ça se fait que ces gens-là sont obligés de prendre un jet privé pour aller signaler leur vertu à l'autre bout du monde afin d'avoir un moment pour se rencontrer, c'est quand même très particulier. Alors, ça fait le tour un petit peu de l'agenda de Justin Trudeau. J'espère que vous avez aimé le voyage au cœur de l'absurdistan d'Ottawa. Où finalement Justin Trudeau est continuellement en train de voyager d'un côté et de l'autre. Parmi les autres nouvelles, là, il est revenu à Ottawa, Justin Trudeau. Donc, pendant quelques jours, vous allez pouvoir profiter de son auguste présence ici même en terre canadienne. Et puis, on a vu qu'il a fait des déclarations, encore une fois, là, il a fait la déclaration des dirigeants 2022 que je vous ai lu tout à l'heure, donc ça a été complété pour les dirigeants économiques de l'APEC. Mais évidemment, tout ça n'est pas contraignant en passant, hein, c'est des déclarations. Alors, il faut comprendre que même si c'est long comme document, même si c'est plein de détails, même s'il y a beaucoup de vertus qui est signalée pour la lutte au carbone, pour l'inclusivité, pour la diversité, pour l'aide aux femmes, tout ça, ben en bout de ligne, c'est non contraignant. Et c'est ça qui fait que c'est spectaculaire. Et c'est un peu ce qui explique qu'on a plein d'initiatives comme ça depuis le début des mandats de Justin Trudeau en 2015 qui finalement aboutissent de souris. Ils aboutissent à rien. Et puis, ce à quoi ça aboutit, c'est extrêmement difficile d'avoir des comptes. Et pour les Canadiens, ce qu'on voit, c'est l'endettement. Ça, il est extrêmement clair et tout le monde en souffre présentement. Parce qu'imaginez que les 300 milliards qui ont été placés pour la fameuse lutte au COVID auraient été placés contre la lutte à la pauvreté au Canada, ben il n'y en aurait plus de pauvreté au Canada, ou alors tellement peu qu'il faudrait la chercher vraiment très fort. Mais non, ça a été envoyé à une caste qui, elle, était prête à recevoir ces argents-là et qui est encore finalement en train d'en profiter au moment où on se parle. Et finalement, on sent que même si Justin Trudeau parle avec Joe Biden, qu'il n'y a pas vraiment tant de choses bénéfiques qui arrivent pour le peuple. Vous savez que Joe Biden a renouvelé finalement l'interdit d'aller aux États-Unis sans passeport vaccinal jusqu'au 8 janvier 2023 et que les mesures sanitaires, l'état d'urgence, là, l'urgence de santé publique COVID aux États-Unis, ça avait été également étendu jusqu'au printemps 2023, donc c'est très long. Donc on sent pas qu'il y a du côté de Justin Trudeau un effort pour que les gens qui sont non vaccinés au Canada puissent voyager plus facilement aux États-Unis d'ici ce temps-là. Ce n'est que pour l'Ukraine. D'ailleurs, il a parlé avec justement le président ukrainien Volodymyr Zelensky pendant son voyage, pendant qu'il était au G20. Et c'est clair et net que l'aide à l'Ukraine n'arrêtera pas, ça va continuer. Puis on a la ministre Anand, la ministre de la Défense, qui a dit qu'on va aider autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. C'est aussi longtemps que nécessaire, je l'avais noté dans mes nouvelles. Je vous invite à aller voir forum.chaudière.ca si vous voulez plus de détails. Et puis, c'est parce que le Canada est en train de faire face à de l'inflation, on est en train de faire face à un niveau de pauvreté qui augmente, on le voit autour de nous. C'est même pas quelque chose de difficile à voir, on le voit nous-mêmes. Pas besoin d'un statisticien pour nous le prouver, là. On le voit, les gens ont de la misère, paiement d'auto, paiement de maison, nourriture, les dettes s'accumulent, il y a des imprévus, c'est dur, c'est vraiment dur. Noël arrive, beaucoup de gens disent « cette année on fait Noël sans cadeau » ou « on fait des fêtes très spartiates, on reste à la maison tout le monde, on se voit un petit peu, on fait un beau petit repas, puis on se dit qu'on s'aime, mais à part de ça, on fera pas exprès d'aller faire des voyages fastueux dans des hôtels ou des resorts. » Disons que les gens vont rester pour un certain nombre très calme, et d'autres qui ont des gros moyens financiers, eux autres vont pouvoir faire tout ce qu'ils ont toujours voulu, comme d'habitude, mais en même temps, c'est pas forcément eux autres qui présentement souffrent à cause de l'inflation, et on leur souhaite de ne jamais en souffrir parce que c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Mais finalement, on voit que Justin Trudeau dirige pour une espèce d'oligopole mondialiste, mais pour les Québécois, pour les Canadiens, on se gratte la tête. On ne sait pas trop à quoi a servi sa dernière semaine pour nous. On sait à quoi ça a servi pour le plan mondialiste. Ça, c'est abondamment clair. Mais pour nous, c'est vraiment pas clair. Il n'y a rien là-dedans vraiment pour nous. C'est assez incroyable quand même. Après toutes ces photos-là, après tous ces tweets, après toutes les déclarations, on se rend compte que finalement, pour les Canadiens, à part s'appauvrir puis à part voir notre argent partir aux quatre coins de la planète sans qu'on ait d'espoir de le revoir ou d'avoir de compte rendu digne de ce nom, ben il a rien fait. Il a littéralement rien fait. Il a fait du jet set, il a dépensé du fioul d'avion et il a fait le tour de partout où est-ce qu'il voulait aller aux frais des Canadiens. Alors, je voulais vous parler également que sur Radio Réveil, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des pubs. Et si vous voulez contacter Dan Pilon, il va pouvoir vous donner plus de détails à ce niveau-là. Et il va être très heureux de vous offrir des ensembles qui sont intéressants pour votre entreprise si vous voulez l'annoncer auprès d'une clientèle qui recherche une information alternative qui donne finalement des pointeurs qui sont rarement discutés ailleurs, mais qui sont toujours de source officielle et qui sont finalement, je crois, importants à discuter aussi. Alors, si c'est le genre d'information que vous voulez appuyer en vous faisant connaître de gens qui s'intéressent à un côté qui est peut-être un peu méconnu de l'information, mais qui demeure, à mon sens, absolument fondamental, ben c'est peut-être votre occasion de pouvoir faire partie de cette grande expérience que s'appelle Radio Réveil. Des artisans, des créateurs qui font en sorte de vous offrir un contenu qui est différent, un contenu qui est livré de manière enthousiaste et qui vous appartient de découvrir à votre vitesse et à votre rythme. Alors, merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'écouter jusqu'à la fin. Vous êtes vraiment fait fort. Et je vous souhaite évidemment une magnifique journée remplie de tout ce dont vous avez besoin pour nourrir le bonheur qui est peut-être déjà en vous. Merci et à bientôt.